Débat IMO, une émission proposée par Wininvest sur Radio IMO et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci et bienvenue pour cette deuxième émission, second opus de Débat IMO. On va parler des métiers de l'immobilier, des débats passionnants bien évidemment pour le logement des Français et bien évidemment aussi de l'accession à la propriété et de tous les moyens finalement qui permettent aux jeunes actifs, aux étudiants, aux retraités de se loger dans de bonnes conditions. Ce sont des débats qui sont prégnants aujourd'hui, surtout quand on voit les bouleversements institutionnels auxquels notre pays fait face. Ce sont souvent des débats d'experts que nous avons conçus avec notre partenaire Wininvest. On va parler bien évidemment d'immobilier, d'évolution des usages, du secteur, quel regard sur le logement, la dynamique du marché, les regards sur l'évolution aussi des métiers et quel impact sur la politique, notamment du logement. C'est l'objet de notre réunion. Nous allons décrypter cette actualité avec nos experts, avec bien sûr toujours accompagné de Xavier Bellevaux, directeur général de Wininvest France. Comment ça va, Xavier ?
Eh bien, écoute, ça va bien. Et toi, Sylvain ?
Eh bien, je suis ravi que tu sois avec nous pour cette émission. C'est notre deuxième émission ensemble et nous allons décrypter. Au sommaire, nous en commencerons par un édito avec toi, Xavier, comme on le fait à chaque fois pour cette deuxième séquence. Vous avez été très nombreux à le plébisciter pour notre premier numéro. Donc, je rappelle que tu es surtout un grand professionnel de l'immobilier puisque tu étais directeur opérationnel chez Orpi. Tu as pris la direction générale d'un réseau. On en parlera, comme on me rappellera un petit peu quelques mots sur Wininvest France. Et tu as souhaité que ce débat, on le conçoive de façon un peu plus politique avec deux personnes qui nous font le plaisir d'être avec nous. Il est fraîchement réélu. C'est pas un tout nouveau député, mais en tout cas réélu, et réélu avec une très nette majorité, puisqu'il a fait 62% des voix au second tour. Il est député de la deuxième circonscription des Landes. Il était président du Conseil national de l'Habitat. Nous sommes ravis de recevoir Lionel Cos sur le plateau. Merci Lionel d'être avec nous.
Eh bien, bonjour et merci.
Et bravo pour cette victoire.
Oui, bah écoutez, c'est une victoire, certes, mais globalement, il faut la ramener sur un résultat global qui est quand même un peu plus inquiétant. Donc satisfaction effectivement personnelle, mais des inquiétudes de façon générale.
Je partage les inquiétudes et c'est bien de ça d'ailleurs dont on va parler. Et merci Lionel, parce que vous êtes, je crois, le premier plateau que vous faites depuis votre élection.
Je recommence mes allers-retours sur Paris et en effet, c'est ma première sortie même, on va dire, officielle ailleurs que dans l'hémicycle ou à l'Assemblée nationale. Donc merci pour votre invitation et très heureux d'être avec vous.
Nous en sommes très honorés. Merci en tout cas Lionel Cos. On vous sait très engagé sur le logement et justement avec Xavier, on est parti pris justement pour discuter de tous les sujets sans éluder aucune question. Laurent Permas est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Ben, très bien, très heureux d'être parmi vous.
Alors Laurent Permas, vous êtes président du directoire de la Sofiap, c'est une banque, c'est une filiale de la SNCF et de la Banque Postale. Et vous avez une particularité, c'est que vous avez mis au point une ingéniosité qui, à mon avis, ne peut que se développer. C'est le crédit immobilier subventionné. Hein, vous nous en parlerez tout à l'heure. Un vrai levier pour accéder à la propriété, un levier pour l'attractivité des talents et conserver ses collaborateurs dans l'entreprise. Et ça coûte quasiment rien à l'État, il faut quand même le rappeler. Comme quoi, quand on fait appel à la société civile, les solutions, nous les avons. Voilà, c'est le sommaire de l'émission, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, vous pourrez récupérer, si vous n'êtes pas derrière vos écrans, l'émission en podcast, comme d'habitude, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute, et bien sûr sur l'application Radio Immo, vous pouvez la télécharger, et c'est gratuit. Voilà, c'est parti pour ce second numéro, l'édito, tout de suite après ça. On s'est dit pour cet édito, justement, mon cher Xavier, que les choses s'annonçaient sous quel type de couleur, si on devait aujourd'hui synthétiser ?
Alors on serait sur plutôt une couleur orange, c'est-à-dire que après 12 mois, on était vraiment dans le rouge foncé. On découvre un début d'année qui était quand même un peu plus dynamique. On se retrouvait avec des crédits dans l'ancien notamment qui étaient à nouveau obtenus, des braises de prix qui avaient été faites. Et on va dire qu'en général, plus généralement, la transaction dans l'ancien commençait à perdurer et à revenir. Je ne parle pas de la promotion immobilière, où on sait que depuis maintenant pratiquement 24 mois, on est très touché et qu'il nous manque un nombre cruel de logements, au moins 600 000, c'est un peu compliqué. Et la remise en location et la location, qui est un sujet également qui est très compliqué. Alors, il est sûr que les Jeux Olympiques n'y sont pas non plus étrangers, notamment pour la région parisienne, mais c'est assez difficile. Alors que c'est vrai, dans tout ça, on voyait les taux qui rebaissaient, on avait même regagné 0,20, parce qu'aujourd'hui, sur 20 ans, on était aux alentours des 3,30, ce qui était plutôt très intéressant, parce que comparativement à ce qu'on avait pu vivre au mois de décembre l'année dernière. Et puis là, hop, le 9 juin, 20h à peu près, un peu plus de 20h, coup d'arrêt, on met la France dans le noir. Voilà, personne n'y croyait. Je ne sais pas si vous, messieurs, vous y croyez à ce moment-là et ce que vous faisiez, mais ça nous a fait un peu bizarre. Et c'est vrai que tout d'un coup, bah, dans l'immobilier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous a posé beaucoup de questions. Quand on sait qu'en moins de 5 ans, on a quand même perdu, avec l'augmentation des taux, à peu près 20 mètres carrés, c'est pas anodin. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on pouvait emprunter n'est plus du tout la même chose. Donc on se retrouve avec des freins, avec également des positionnements politiques qui font un peu peur. Moi, je dis toujours en rigolant que depuis quelques années, le logement, c'est la première dépense des Français, je pense qu'on en conviendra tous aujourd'hui, et que pour moi, le logement devrait être sans étiquette politique, c'est-à-dire que ça devrait être ce que j'appelle le sujet de toute part des politiques. Et comme on le dit souvent, eh bien, c'est pas ce qu'on rencontre au quotidien, c'est-à-dire que actuellement, là, dans la campagne, au niveau du deuxième tour, on a eu le sentiment que le logement revenait un petit peu sur la table, mais je trouve pas suffisamment. On a quand même une situation qui est très préoccupante, on a des gens aujourd'hui qui travaillent, qui gagnent plus que le SMIC, qui n'arrivent pas à se loger dans certaines villes et qui se retrouvent à vivre ou dans des campings ou dans leur voiture et à utiliser des aires d'autoroute pour se doucher. Quand moi j'entends ça, je suis quand même complètement abasourdi, parce que quand on gagne 1700, 1800 euros et qu'on peut pas se loger, par exemple, à Annecy, bah, y a quand même un problème plutôt de fond que de forme. Donc c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous par rapport à ça. Et c'est vrai que je disais toujours en rigolant, la gestion de l'économie, il y a quelqu'un qui a dit, c'est ni de gauche ni de droite, elle est bonne ou mauvaise. C'était Tony Blair, l'ancien Premier ministre. Et c'est vrai que moi j'ai envie de vous dire, je me demande quand c'est que le logement va être la première dépense des Français, va devenir le sujet numéro un pour les 10 prochaines années. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, Sylvain.
Ça s'appelle un édito punchy, qui pose assez bien le débat, parce que dans tout ce que tu dis, je rajouterais juste, quand tu parles de la première dépense des ménages, je rajoute le mot contrainte, c'est la première bien dépense sûr. Contrainte des ménages, et cette dépense, elle a augmenté de plus de 30% dans les 10 dernières années, et ça on le sait déjà, puisqu'effectivement c'est un vrai choix. Et c'est parfois un choix d'ailleurs pour certains ménages, entre payer le loyer ou manger par exemple, ce genre de choses.
Oui, mais en complément, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, c'était pas le cas. Voilà, et les gens investissaient dans leur logement intelligemment. On voit nos parents, nos grands-parents, c'était pas du tout la même structure. Aujourd'hui, quand vous discutez avec quelqu'un qui a entre 18 et 22 ans, la priorité de devenir propriétaire de son bien n'est plus du tout une réalité. Et c'est pour ça qu'on a plein d'investissements qui se mettent dans d'autres domaines que l'immobilier, malheureusement, et qu'on se retrouve aussi avec des logements qui sont de moins en moins entretenus sur le marché.
Merci beaucoup pour cet édito. Vous voyez, ça pose très très bien le débat. C'est à suivre maintenant. Voilà, je rappelle sur le plateau, nous avons Laurent Permas, président de la SOFIAP, le tout nouveau député fraîchement réélu, Lionel Causse. Voilà, j'allais dire le tout nouveau député. Député. Au fait, je voulais vous poser une question. Quand vous en êtes réélu, est-ce que vous êtes réélu pour une période de 6 ans? Ouais, parce qu'en 2027, alors, est-ce qu'il y a de nouveaux...
5 ans.
Oui,
pendant 5 ans. Pour une législature, normalement, de 5 ans. D'accord. Dont on sait que de toute façon, on n'ira pas jusqu'au bout, puisque les élections présidentielles au plus tard en 2027, et
il y aura donc ça veut dire que vous remettrez éventuellement le couvert en 2027.
Il y aura probablement des élections législatives anticipées en 2027, oui.
Merci en tout cas d'être avec nous, avec bien sûr Xavier Bellevaux, directeur général de WeInvest France, et nous avons également sur le plateau Alain Le Tailleur, qui s'occupe des innovations chez Se Loger. Merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Alain. On avait dit que ce débat, il est politique, parce que c'est un des premiers débats d'ailleurs politiques sur la saison. La question du logement commençait à reprendre un peu de couleur, on peut dire, c'est-à-dire qu'il y avait quelques pistes. Je fais allusion notamment, vous savez, à la baisse des taux de la BCE annoncée en juin de 0,25 points, qui avait redonné un peu de couleur. On a vu d'ailleurs avec Xavier que les transactions avaient repris légèrement un frémissement de marché. Il y avait quelques lois qui étaient en cours, qui pouvaient améliorer les choses. Je ne reviens pas sur la loi que vous aviez présentée, sur laquelle effectivement vous vous êtes retiré, hein, le projet qui n'a pas été jusqu'au bout, mais on en reparlera. Nous avions un tout nouveau ministre du Logement, en l'occurrence Guillaume Kasbarian, qui n'est pas resté long, finalement, ou qui est toujours, hein, actuellement, toujours ministre. Ministre du Logement. Nous avions déjà un précédent ministre, Patrice Vergriete, qui était resté 5 mois. Après, effectivement, 4 gouvernements, 5 ministres du Logement, ça commençait à faire beaucoup. Et boum, on tombe en plein milieu des élections européennes, où là, c'est un véritable cataclysme. Ma première question, elle est pour vous, Lionel. Est-ce qu'on peut dire finalement que, de toute façon, le logement, politiquement, ben, c'était pas une priorité, même si on le voit bien dans le combat de ces élections, on en a un peu plus parlé que d'habitude.
Alors, je vais redire ce que je dis depuis maintenant quelques mois, voire quelques années. En effet, il n'y a pas eu de politique du logement au niveau national qui a été en tout cas inscrite et qui a été partagée, voilà, au sein du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour répondre aux attentes des Françaises et des Français. C'est la raison pour laquelle, ce qu'a dit Xavier est juste, nous sommes en crise, et cette crise, elle va durer. C'est pas parce que, éventuellement, nous avons quelques petits signaux depuis le mois de janvier que ça va repartir et qu'on est en capacité de répondre aux problèmes, aux difficultés contre les Françaises et les Français du jour au lendemain. On sait qu'on a pour quelques années, malheureusement, mais ces quelques années, on les doit effectivement... à ces années sur lesquelles on n'a pas su apporter les réponses et en tout cas faire en sorte que la machine ne s'arrête pas. Or, elle s'est arrêtée sur tous les segments de l'immobilier. Le parcours résidentiel est stoppé, vous l'avez bien dit, soit au niveau du locatif, au niveau de l'accession, au niveau de l'accès. Et moi, j'ai entendu pendant ces 3 semaines de campagne ce que j'entends depuis des années. Avant d'être député, j'étais maire, j'avais tous les jours des gens qui venaient me parler de leurs difficultés de logement, c'est la raison pour laquelle j'avais doublé le parc de logement social sur ma commune, que j'avais été, je pense, un maire bâtisseur, puisqu'à l'époque, effectivement, on nous traitait ainsi, enfin nous surnommait ainsi, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de maire bâtisseur. Moi, je n'en connais quasiment plus. Il doit bien y en avoir quelques-uns en France. Mais en tout cas, quand je fais le tour de ma circonscription et le tour de France, il n'y a quasiment plus de maire bâtisseur. Or, il faut construire. Et il faut construire bien. C'est-à-dire qu'il faut construire des logements dans lesquels ceux qui vivent sur un territoire puissent se loger. Moi, on peut construire sur mon territoire, sur le littoral, mais ça ne répond pas aux besoins de gens qui vivent sur ce territoire. J'ai des communes comme Osogor, Seignos, Cabreton, ça parle certainement aux gens.
Mais c'est vrai que les budgets ne sont pas du tout adaptés.
Voilà, le neuf aujourd'hui sur Seignos, une promotion qui est en cours de vente, c'est 14 000 euros du mètre carré.
Du mètre carré.
Du mètre carré. Donc, mais ça a pris, des sommets. Donc,
mais ça a pris 2 500 euros du mètre carré aussi.
Donc, comment voulez-vous que les gens qui travaillent puissent loger? Donc, résultat, ils vont à 30, 40, 50 kilomètres. Et même là, on est à 4 000, 5 000 euros du mètre carré. Donc, ça monte aussi. Et résultat, on se retrouve avec des gens qui sont en difficulté financière. Et comme vous l'avez dit, c'est le premier poste de dépenses contraint. Donc, non seulement les gens ne sont pas bien logés, non seulement ils sont logés loin de là où ils travaillent. Et en plus, ça leur crée des problèmes financiers insupportables. Donc ça, malheureusement, on en a pour quelques années. D'où l'urgence d'avoir une vraie politique du logement. Je veux dire, c'est, même si on a quelques signaux, effectivement, sur les taux, quelques signaux, effectivement, sur des reprises de vente, aujourd'hui, c'est nettement insuffisant. On sait qu'il faudrait avoir, au niveau du Conseil national de l'habitat, que je présidais, on avait fait une étude, hein, en disant qu'il fallait plus de entre 450 et 480 000 logements construits chaque année, non seulement pour répondre aux besoins, mais en plus pour rattraper le retard. Qui a été pris. Hein. Voilà, il y a 100 000 pour attraper le retard, 300, un peu plus de 300 000 pour faire face aux besoins de la société. Et je ne sais pas combien on va atterrir cette fin d'année, mais on va être très très bas. Donc chaque fois, on aggrave la situation.
Vous avez dit que ça allait durer.
Oui, ça va durer parce qu'il faut que la machine se remette en marche.
Donc, elle est inédite, en fait. Elle est vraiment inédite, cette crise.
Mais Sylvain, on a connu 3 crises dans l'immobilier, si on réfléchit sur les grandes années. Jamais ça avait emporté la politique également. On n'avait jamais eu des taux d'inflation qui avaient été aussi hauts, on n'avait jamais eu un arrêt de cette manière-là. Donc, objectivement, c'est intenté à durer bien plus longtemps, surtout qu'on avait vécu un phénomène assez important, c'est-à-dire qu'exceptionnellement, on avait eu des ventes actées qui étaient allées à plus d'1,2 million, ce qui n'est pas du tout la norme. Aujourd'hui, la norme et la cohérence dans le marché de l'immobilier, on est entre 860 et 1 million de ventes. Quand on est à 1,2 million, ce n'est pas la cohérence. Donc tout ça, il faut le rattraper aujourd'hui. On a des vendeurs qui, malheureusement, c'est toujours la même chose et on serait à leur place, on tenterait la même chose, qui veulent toujours vendre le plus cher possible. Et c'est vrai qu'on a du mal à avoir des professionnels d'immobilier qui arrivent à faire comprendre aux vendeurs qu'on ne peut pas financer et qu'au fond, C'est un peu le banquier qui aujourd'hui fait la loi dans la commune. Et c'est vrai qu'on, moi je prends toujours mon exemple de Saône-et-Loire, on a des gens qui avaient la possibilité il y a 5 ans d'avoir 1000 mètres carrés de terrain avec une maison de 150 mètres carrés 4 chambres pour 200 000 euros parce qu'ils avaient des salaires moyens d'environ 2000 euros. Aujourd'hui la même maison est à vendre 380 000 euros mais les salaires n'ont pas augmenté. Donc quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe? On a un marché qui ne bouge plus. Et tant que ça, on n'arrivera pas à le faire comprendre, ça ne pourra pas aller plus loin.
Laurent Pirmas, est-ce que vous, qui financez massivement finalement l'accession à la propriété, avec effectivement ce levier, dont vous nous en parlerez bien évidemment, le crédit subventionné, est-ce que vous faites le même constat aujourd'hui? La machine, elle est bloquée.
Alors, elle est bloquée parce qu'en fait, les taux sont partis à la hausse. Mmh. C'est-à-dire qu'on était dans un état de grâce pendant 15-20 ans, où en fait les taux étaient bas. Et les Français se sont aperçus qu'ils pouvaient, en fait, avec leur résidence principale, avoir un peu de revenus, en plus. C'est devenu un outil spéculatif. Et c'est ça l'erreur. Sachant que, sur la résidence principale, il n'y a pas de taxation, si vous voulez, de la plus-value.
Oui.
Et donc, on trouvait tout à fait normal, ça faisait même écho dans les dîners ou les déjeuners.
Je comprends bien. Vous voulez dire que dans l'acquisition de la résidence principale pour y habiter, il y avait plus l'objet de dire je vais faire une bonne plus-value, je vais faire un coup, c'est ça l'idée?
En fait, on se disait j'achète un bien, alors c'est une résidence principale, donc c'est patrimonial.
Ouais.
Mais si je fais des travaux, un petit coup de peinture...
Si je l'embellis, je peux
le revendre dans 3 ans. Et donc la duration d'un bien qui était autour de 10 ans est descendue en fait autour de 8 ans, en moyenne, en France.
C'est vrai,
très bien. Vous aviez des Français qui prenaient l'habitude de le revendre au bout de 4 ans, en fait, avec une plus-value, et de repartir sur un bien plus grand, puisque la plus-value faisait l'objet, en fait, d'un apport. Donc tout ça roulait tranquillement, si vous voulez. Et il y a eu une décorrélation silencieuse entre le revenu et le prix du marché. Sur l'année 2000, si on reprend le référentiel de l'année 2000, les prix ont été multipliés par 2, prix du marché multiplié par 2, et le revenu 30%. Et si vous faites une projection sur les 40 dernières années, c'est les prix ont été multipliés par 15.
C'est ça.
Par 15
et 10. 15 pour la partie maison.
Et les revenus 10. Par 5. Donc vous voyez un peu l'écart énorme qui s'est posé, mais silencieusement. Et aujourd'hui, la problématique, c'est de se dire, les banques, il faut qu'elles fassent un effort. Le problème, c'est que tout le monde doit gagner sa vie. C'est le principe d'une économie. Et donc une banque, lorsqu'elle se refinance au travers de la BCE, c'est pas elle qui fait les taux de marché, eh bien, elle va se refinancer à un taux aujourd'hui qui est quand même relativement élevé, pour prêter à un taux qui devient extrêmement serré. La marge est pincée pour les banquiers. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont prêter plutôt à ceux pour lesquels il y aura moins de risques d'avoir des impayés, puisque le coût du risque est un élément important au niveau de la cotation en fait, d'une banque et de sa marge. Donc, tout ça fait qu'on a un marché aujourd'hui qui est complètement déstructuré, désorganisé, pour lequel... il y a un fond qui est important, c'est que les Français, à 80%, 87%, les dernières études d'Ipsos, souhaitent acheter. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un temps de crise, et on a besoin de sécurité. Et puis, un autre sujet, c'est qu'en fait, les Français, ils préparent leur retraite. Lorsqu'on parle de résidence principale, c'est une démarche patrimoniale. Et moi, je fais pas de dogme sur la propriété. C'est qu'en France, on a une retraite par répartition... Voilà, on n'a pas une retraite par capitalisation, et donc, dans ce cadre, eh bien, si vous voulez, l'achat de la maison fait partie du patrimoine pour préparer sa retraite. On ne peut pas l'enlever. Sinon, il faut changer aussi les dispositifs de retraite par capitalisation. Et donc, le fait d'être propriétaire est, en tout cas, un facteur déterminant pour ensuite pouvoir constituer une épargne supplémentaire avec la longévité de la vie que l'on a, qui est
par exemple de revendre la résidence principale.
Donc il faut trouver,
trouver des relais.
Exactement.
Effectivement,
et il faut trouver d'autres acteurs, des tiers payeurs.
C'est pour ça qu'il nous faut une politique logement, parce que quand je disais qu'il fallait construire du logement abordable, c'est pour justement éviter que ça flambe de tous les côtés. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune maîtrise du foncier. On a libéralisé. Le fait de ne pas avoir de politique, c'est qu'en fait le marché libéral s'est imposé. Mmh. Et donc ça fonctionne bien pour ceux qui ont les moyens, ça fonctionne bien pour les retraités qui ont déjà un patrimoine, qui vont effectivement vendre leurs biens à Paris, qui vont venir l'acheter dans les Landes au bord de l'océan, et qui vont arriver avec des sommes que les gens qui vivent sur ce territoire ne peuvent pas avoir. Bon, donc ça, aujourd'hui, ça crée dans notre société vraiment, je dirais, une coupure entre ceux qui ont la possibilité d'accéder au marché de l'immobilier et ceux qui n'y arrivent pas et qui voient la possibilité d'y accéder s'éloigner. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de déclassement qui est de plus en plus fort et on a une société qui est en train d'être coupée en deux.
Mais en même temps, c'est un danger. Mot qui revient souvent, la relégation sociale. Mmh. Oui. Et notamment, c'est le MEDEF qui avait fait une étude justement sur l'éloignement des bassins d'emploi qui faisait dégringoler finalement une partie de la population vers la précarité, ce que vous appelez le déclassement.
De déclassement qu'ont quasiment tous les jeunes aujourd'hui. Si vous n'avez pas de patrimoine ou de très très gros revenus, vous ne pouvez plus accéder à la propriété.
Mais il y avait quand même...
Et même au marché locatif, on en parlera tout à l'heure.
Oui, mais Sylvain, il y avait un autre sujet, c'est-à-dire qu'il y a encore... Ouais. Allez. Pendant une dizaine d'années, les primo-accédants, c'était aussi ce qu'on pouvait installer justement dans ce qu'on appelait la construction. Parce qu'ils avaient la possibilité, via leur entreprise et d'autres dispositifs PTZ ou autres, d'avoir la possibilité d'acquérir à la... Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi ? Parce que le banquier s'est rendu compte que c'était les premiers couples qui étaient à risque. Parce que quand on achète une maison, on ne se rend jamais compte qu'il y a les extérieurs, il y a les frais annexes, etc. Et 1 sur 4 revenait vers son banquier en disant « j'ai besoin d'un complément ». Et donc là, quand on passe d'un taux qui était à 1,1, 1,5 et qu'on passe à 3,5, même si, au fond, j'ai envie de dire, Laurent, 3,5, c'est pas énorme. Je veux dire, faut qu'on arrête d'imaginer, c'est pas la fin du monde. On a pendant très longtemps connu du 4, voilà, du 3,5, du 2,80 pour les bons dossiers. Donc on a presque retrouvé un marché qu'on avait connu pendant très longtemps. Voilà. Donc je pense que c'est important. Mais par contre, pour la construction, ça c'est un vrai sujet. Voilà, ça c'est un vrai sujet. L'autre sujet qui est à prendre en compte, on a beaucoup plus de séparation qu'avant. Et donc on se retrouve avec des femmes isolées avec leurs enfants à devoir loger, qui ont des revenus qui sont moins importants, ou même des hommes ou des hommes seuls. Et ça c'est avec leurs enfants. Et ça c'est très compliqué parce que on a beaucoup moins de logements. On se retrouve avec des F3 qu'on a beaucoup moins également sur le marché. Donc tous ces éléments liés et additionnés font qu'on a un réel problème. Et moi j'avais envie de poser une question justement à Lionel. C'est que moi j'étais très content. On va se tutoyer quand tu avais mis en avant les dispositions, etc. au mois de janvier, qu'au mois d'avril tu as tout retiré, j'étais assez déçu. Je me suis dit, zut, quand même, on va pouvoir obtenir jusqu'à 27 ans, il y a quelqu'un qui se bat pour la durabilité du crédit, pour les jeunes. Donc ma première question, tu as été réélu, est-ce qu'il y a des choses que tu nous prépares ou est-ce que tu comptes revenir un peu à la charge sur d'autres possibilités?
Ma proposition de loi sur le Haut Conseil à la stabilité financière. Cette proposition de loi, il y avait deux axes. Un sur la gouvernance du HSF, qui aujourd'hui est complètement opaque et dans lequel effectivement aucun parlementaire, aucun politique, personne ne participe. Et seul le gouverneur aujourd'hui, non seulement c'est le seul à convoquer quand il le souhaite, et c'est le seul à pouvoir mettre des sujets à l'ordre du jour. C'est-à-dire que même les membres ne peuvent pas rajouter un sujet à l'ordre du jour de quelque chose qui est complètement opaque. Il faut quand même le faire. Je ne connais pas d'autres instances qui fonctionnent ainsi. Et le deuxième, c'était sur les critères. Je demandais tout simplement à ce qu'on tienne compte aussi des enjeux économiques de croissance et de PIB, pour qu'il n'y ait pas que les aspects macroprudentiels derrière lesquels le gouverneur et le HSF se cachent en permanence. Bon,
35%, 27 ans.
Je pense aller dans le bon sens. Or, je l'ai retiré. Pourquoi je l'ai retiré? Parce que un lundi soir à 22h dans l'hémicycle, par une alliance des députés de gauche et de certains députés de la majorité, cette PPL a été complètement vidée de son sens. Et moi, je ne portais pas de PPL pour dire « j'ai sorti une PPL », ça ne m'intéressait pas si derrière, elle n'apportait rien. Donc à partir du moment où les deux articles avaient été supprimés, j'ai préféré la retirer que d'aller au vote final pour faire croire aux gens qu'on apportait des réponses alors qu'on ne les apportait pas.
Voilà. Quelle en était la raison? Pourquoi cela a-t-il été retiré?
Alors je regrette la position de mes collègues de gauche qui assimilent les emprunts immobiliers au surendettement en permanence. Ah oui. Alors, ce qui est complètement faux. D'ailleurs, quand on regarde, on avait beau apporter les réponses en disant que c'est pas sur l'immobilier que les gens sont surendettés. D'ailleurs, bon,
c'est le cas.
Et ils étaient. Oui, mais voilà, je n'ai pas réussi à convaincre mes collègues de gauche que en donnant cette souplesse et plus de transparence, on allait pouvoir non pas résoudre tous les problèmes. Attention, loin de là. Mais enfin, j'ai rencontré le président d'un directoire d'une banque il n'y a pas très longtemps, juste avant la dissolution, qui me disait que lui, il avait entre 20 et 30 dossiers qu'il aurait pu sortir si ma PPL était sortie. Je lui ai dit, ça aurait été bien qu'il le dise avant, mais bon, les banques sont restées très silencieuses à ce moment-là lors du débat. Voilà, donc moi, ce que je voulais, c'était pouvoir porter des réponses et pouvoir savoir sur quels critères et quels arguments le HSF prend des décisions qui impactent la vie des Françaises et des Français derrière, puisqu'il s'agit, comme vous l'avez dit, d'un sujet quand même primordial, l'accès au crédit immobilier.
Est-ce que le ministre du Logement était partant pour cette idée?
Eh bien écoutez, le gouvernement était partant au départ, puisque ça a été inscrit à l'ordre du jour, et ils m'ont lâché en séance à 21h-22h en donnant des avis favorables aux avis aux amendements de suppression du contenu de la PPL. Donc à partir de ce moment-là, j'ai préféré noter. Mais c'est pas grave, je vais y revenir.
Non,
c'est ça qui m'intéresse.
Je vais y revenir.
Comment
mais il faut que je trouve une majorité parce que je ne me ferai pas avoir deux fois, bien entendu. Mais j'ai bien l'intention d'y revenir.
Lionel, votre combat, on le connaît. Moi, vous le savez, je ne partageais pas du tout votre point de vue. Parce que l'Alliance Renaissance, hein, vous savez ce que j'en pense. Néanmoins, vous avez été parmi les députés de la majorité celui qui a le plus posé de questions sur ce sujet. Et finalement, d'une façon, j'allais dire, entre guillemets, frontalière ou transpartisane, vous avez fait l'unanimité, même à ceux qui n'étaient pas du tout dans votre camp. Et ça, c'était remarquable. Je déplore le fait que vous n'ayez pas eu de continuité sur le fait du Conseil national de l'habitat. Il serait bien avisé de vous y replacer à la tête, puisqu'il y avait aussi beaucoup de choses. Justement, il y a un président de directoire de banque qui est avec nous. On va lui poser la question. Parce que, Laurent, vous l'avez connu, vous la connaissiez, cette loi, qui tentait finalement à dire deux choses. Je précise simplement que nous avons reçu 4 ministres du logement ici. Et que la dernière en date, c'était Emmanuel Wargon, avant que Patrice Bergritte, que Olivier Klein prenne le relais, et ensuite Patrice Bergritte, qui, de façon presque dogmatique, n'arrivait pas à entrevoir l'idée des règles du HCSF décorrélées effectivement du niveau de l'endettement. Et en fait, c'est cette équation quasi dogmatique, et je ne comprenais pas à quel point, puisque quand on posait la question à Emmanuel Wargon, il répondait ceci, alors, au mot près, le gouvernement a choisi de ne pas endetter plus les Français. Et en fait, une fois que vous avez posé cette équation sous cet angle-là, quelle réponse peut-on y apporter, Laurent Permas ?
Il y a plusieurs réponses, en fait. Oui, l'endettement des Français, il a toujours été... Alors, l'immobilier, on l'a vu, il est décorrélé, donc il y a aujourd'hui un marché qui est décorrélé du revenu des Français. Le poste, la charge immobilière, hein, lorsqu'on achète, en moyenne, sur SINSEE 2023, c'est 27%.
Exact.
D'accord ? Donc 27%, c'est quand même pas neutre. On parle des normes HCSF, c'est 35%.
35%.
D'accord. Donc il y a plusieurs techniques pour faire, en tout cas pour respecter, ou en tout cas pour aménager un poste de charge pour les Français qui soit convenable pour le reste à vivre. La première, c'est d'allonger en effet la durée du crédit. De toute façon, lorsque vous avez un prix de marché qui n'a pas été encadré, aujourd'hui, on ne va pas revenir en arrière. D'accord. Ça va de toute façon durer. Il y a des Français qui achètent, qui attendent pour acheter en se disant « Dans deux ans, ça va perdre 30% de sa valeur. »
Et pourtant, les médias ne cessent, là, ce matin dans Capital, les prix de l'immobilier s'effondrent.
Mais attendez,
pense qu'il faut... Mais quand on prend les pourcentages...
Ça dépend où, il faut regarder, parce qu'on est sur des taux nationaux de moins 0,1%.
Alors, quand on prend les taux nationaux, on est de l'ordre, effectivement, de moins de 3%.
Je pense qu'il faut être sérieux sur ce sujet. Là encore... On est sur de la spéculation. Ce type de déclaration, c'est de la spéculation, voyez. Donc l'immobilier, c'est du placement, c'est un placement long terme. Et donc, accompagner les Français qui sont seulement 57% à être propriétaires, c'est loin des 70% en Europe. Hein.
Et des 80% qui souhaiteraient
l'être. D'accord. Donc ça, et les primo-accédants aujourd'hui sont complètement écartés, alors que les deux ont des CDI. Donc l'accès au crédit, notamment sur les primo-accédants, eh bien c'est pouvoir être capable, en effet, d'allonger la durée du crédit. Ça, c'est une première réponse. La seconde, donc vous aménagez, vous n'endettez pas fortement les Français et vous leur permettez de faire de ce qu'on appelle de l'épargne forcée immobilière. D'accord ? Qui est le complément de l'épargne financière.
Mais surtout que le banquier, ça ne lui pose pas de problème qu'on allonge la durée. Il gagne sa
vie. Non, puisque c'est un risque qui est posé.
Pour le français aujourd'hui, le fait de ne pas tenir compte du reste à vivre fait que ce sont les locataires qui sont surendettés et qu'aujourd'hui, dans notre société, tout le monde ferme les yeux si on met 50 ou 60% de ses revenus dans un loyer et on le refuse de le passer à 37 ou 40%, même si on gagne reste à vivre
Mais comment on peut l'expliquer, ça ?
Alors, ce n'était pas tout à fait le cas avant, parce qu'on avait les GLI qui venaient protéger ça, il fallait au minimum trois fois le salaire, et on faisait très attention au reste à vivre. Je mets juste le bémol, et c'est l'arrivée des cautions sur le marché notamment, comme la caution Visale qui a engrangé ce type de choses, ce qui est bien et pas bien. Je mets juste le bémol.
Parce que vous n'avez pas le choix.
Parce qu'en tant que professionnel de l'immobilier,
on n'a pas le choix.
On a aussi vu certaines complications par rapport à ce point-là.
Oui, permettez-moi, mon cher Xavier, de faire un petit bémol. La garantie Visale fonctionne aussi avec les mêmes ratios sur les dossiers, le traitement des dossiers. Ils ne prennent pas n'importe qui.
Je vous garantis, quelqu'un
qui a 2000 euros de revenus pour un loyer de 1200 euros, je vous garantis qu'il n'y aura pas visa.
Aujourd'hui, vous avez des cautions comme Garantmi Haute qui prennent le reste à vivre, ce qui n'était pas le cas avant.
Ah oui, non, mais je ne suis pas pour dire OK. Non, mais, voilà.
Et Visal au départ, bien sûr, mais parce que les conditions de GLI n'étaient pas les mêmes que Visal au départ.
Visal, en plus, il y a une garantie gratuite. Non, mais je précise.
Juste peut-être pour compléter aussi, puisque il y a d'autres possibilités. On voit aujourd'hui les Français qui massivement, notamment les salariés qui ont des dispositifs d'épargne retraite collective, le PE, le PER collectif, le débloque, puisqu'il y a un cas de déblocage qui est l'achat de la résidence principale. C'est 2,3 milliards qui ont été débloqués l'année dernière. Et ça, c'est un sujet. Alors, certes, ça vient compléter et aménager notamment les 35%, en tout cas respecter les 35% d'endettement. Je pense que c'est une erreur d'utiliser cette somme pour faire un apport et pouvoir compléter en fait le prêt, le financement pour respecter ce cap. Pourquoi c'est une erreur? Parce que c'est débloquer de l'épargne financière, d'accord, qui aura un rendement dans 35 ans qui sera totalement différent des du rendement, en tout cas de payer un taux aujourd'hui qui est à 3,40, puisque le rendement sera largement plus important, et c'est de l'épargne indispensable pour accompagner la retraite. Donc il y a d'autres leviers qui sont à créer, à innover. Alors, il y a notamment l'entreprise qui peut jouer son rôle, puisque avec le télétravail, ça a complètement redimensionné en fait la problématique du logement et du trajet et du rapprochement avec son travail. Et donc vous voyez des déserts qui s'installent sur des zones, notamment des zones tendues. Parce que les zones tendues, aujourd'hui, les primo-accédants ne peuvent plus y avoir accès. Et on voit d'ailleurs Paris, qui a diminué ces 20 dernières années, de 35%, en fait, sa population. On ne peut plus.
Mais en même temps, quand tu prends les transports à Paris, tu peux aller à Reims, Chartres, Orléans, Tours ou autre, tu mets autant de temps pour rentrer chez toi. Donc, effectivement, avec les aménagements, et je suis bien placé pour en parler, j'ai la moitié de mes collaborateurs aujourd'hui qui vivent dans tous les coins de la France. Et sincèrement, ça se gère, ça se fait. Et ils ont récupéré un pouvoir d'achat et ils éduquent leurs enfants dans de meilleures conditions d'après eux. Voilà, donc on peut dire qu'aujourd'hui, ces éléments
sont
là.
Alors, on va essayer d'égrener aussi, apparemment, on avait quand même des syndicats, des corps intermédiaires qui avaient émis pas mal de solutions, effectivement. Sur le sujet. Laurent Permas, alors vous avez une particularité, c'est que vous faites ce qu'on appelle du crédit subventionné. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer l'avantage du crédit subventionné? En fait, c'est pas un risque bancaire. Pas un risque bancaire.
Non.
Donc la banque traite le dossier de la même façon.
Exactement.
Sauf que l'entreprise finance toute ou partie des intérêts d'emprunt. Je crois qu'elle peut financer la totalité.
Si elle le souhaite.
Ça coûte combien? Et donnez-moi un cas pratique, parce que ça serait bien qu'on découvre un petit peu les choses, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur des marchés tertiaires, par exemple, ou sur de la tech, ou sur des sociétés dans lesquelles on a besoin d'ingénieurs, mais aussi qu'on a besoin de les loger, et Lionel Cos connaît très très bien le sujet, est-ce que, alors je ne dis pas que c'est la martingale, mais est-ce que votre système, finalement, ne vient pas être une belle réponse, une bonne réponse alternative à ce type de problématique?
C'est une solution parmi d'autres, en fait, qui peuvent exister. Hein. On parlait du rallongement de la durée d'un crédit. Là, en l'occurrence, l'entreprise prend en charge une partie des intérêts, ou la totalité des intérêts, sur un montant, sur une enveloppe, en fait, qu'il choisit du prêt.
Par exemple,
un exemple.
J'emprunte 300 000 euros.
On a des cas d'entreprises qui, le cas le plus global, le plus général qu'on retrouve, c'est 100 000 euros, une enveloppe de 100 000 euros, où l'entreprise prend en charge 2%. C'est pas rien, hein, 2% du taux en vigueur, alors 3,40, 3,50, 3,80, peu importe. Et donc, ça fait en gros un apport de 32 000, 33 000 euros. Donc en fait, dans le plan de financement, le salarié, lui, il va avoir une aide de l'entreprise qui va être 30 000 ou 35 000 euros, en fonction un peu de
Mais est-ce que l'entreprise décaisse 30 000 euros?
Ben bien sûr que non, puisqu'en fait, c'est le plan d'amortissement après. Donc,
d'accord,
j'ai mon plan de financement, l'entreprise prend en charge une partie des intérêts sur une enveloppe donnée, d'accord? Donc, c'est un apport, c'est le fameux apport que j'aurais pu avoir par les parents, par le déblocage de mon plan d'épargne retraite.
Est-ce que ça resolvabilise la personne? par exemple.
Bah, ça fait descendre. Ça là, fait on parlait des 35% d'endettement.
Ouais, là,
là vous descendre. Descendez de 2 points, ouais. si vous voulez. Donc, ça offre de qualité. La première, éventuellement, pour ceux qui sont un peu limites, puisque ça, 60% sont des primo-accédants de ce type de dispositif. Donc, c'est une réponse, si vous voulez, aux primo-accédants qui vont justement avoir une possibilité de passer d'un loyer, d'un logement en locatif à 60 mètres carrés ou 70 mètres carrés à peu près la même chose en accession à la propriété. Parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'en gros, vous devez faire une croix sur 20 mètres carrés, entre 10 et 20 mètres carrés, qui sont quand même pas neutres lorsque vous passez de 60 mètres ou 70 mètres carrés à 45 mètres carrés. C'est pas du tout la même chose. Le projet, il est pas le même, si vous voulez.
Non, c'est clair.
D'accord ? Donc ça répond concrètement à la fois au primo-accédant, ça répond au fait que ça donne du pouvoir d'achat, hein, et ça permet à l'entreprise, là aussi de façon très concrète, eh bien, d'accompagner les salariés sur l'attractivité, sur la fidélisation, sur le lien entre emploi-logement et télétravail. Parce qu'on évoquait le télétravail, c'est aussi une façon...
Du coup, Laurent, j'ai une petite question par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe du collaborateur qui, au bout de 4 ans, s'en va ?
Bonne question.
Le collaborateur, en fait, lui, il a eu un accès à un projet. Sans avoir des difficultés à trouver de l'épargne qu'il n'a souvent pas, ou en tout cas un montant plus important d'apport. Donc ce projet, l'entreprise y a répondu à un temps donné. Lorsqu'il part au bout de 4 ans, il va le reprendre sur la durée en fait, de remboursement, il va reprendre tout simplement le taux de son prêt complémentaire. 3,40, 3,50. Ce qu'il faut savoir, c'est que la duration moyenne, c'est 8 ans. La durée moyenne de fidélité à une entreprise, c'est un peu moins de 10 ans. Donc, on est dans des moyennes qui sont soutenables, entre guillemets, en termes de projet, d'attachement que l'entreprise va faire auprès de ses salariés, parce que c'est un investissement pour ses salariés. Et le salarié aussi une réponse concrète à une attractivité forte d'une PME, par exemple, par rapport à une grande entreprise. Donc, il y a peu d'impact en termes de pouvoir d'achat. Ça, c'est la première réponse pour le salarié, pour le foyer. Hein, parce que les premières années, on rembourse les intérêts en majorité.
Et est-ce que pour l'entreprise, j'en profite, hein, est-ce que pour l'entreprise, les frais sont déductibles ?
Alors,
parce que ça aussi, dans le cadre...
C'est une bonne question.
Non, mais dans les faits, parce qu'on peut parler de marque employeur, etc. Je parle à toutes les petites TPE, et je ne vais pas parler aux grosses entreprises, mais petites TPE, c'est une des questions. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a une capacité, en fait, de pouvoir alléger et de pouvoir bénéficier d'un régime d'exonération minimum ou partiel, enfin total ou partiel, par rapport à cela ?
Bah vous me tendez la perche,
sur les crédits,
hein.
Comme on le fait sur les leasings aujourd'hui ou les crédits beaux.
C'était pas prévu. Hein.
Justement, c'est un projet que l'on partageait, alors qu'on continue à partager avec le député Lionel Coff. C'est justement, aujourd'hui, c'est un avantage en nature. On a 600 000 salariés éligibles dans le dispositif. C'est pas une start-up, mais on a quand même un fonds de commerce.
Juste Laurent, qu'on précise bien. Un avantage en nature, c'est donc qu'on rajoute les charges.
Charge patronale. Donc c'est 55% que vous rajoutez, hein, si les fameux 30 000, bah vous rajoutez 55%. D'accord ? Donc ce que l'on propose dans le projet de loi, c'est que la participation de l'entreprise soit en partie déductible de charges patronales, en reprenant exactement le même véhicule que pour l'épargne salariale. Ça a l'avantage pour les DRH et les entreprises de comprendre, de ne pas mettre un temps fou pour se dire, c'est encore une nouvelle loi, etc. C'est exactement la même chose.
Ça pourrait vraiment aider les jeunes, et notamment les primo-accédants, qui rentrent dans des entreprises qui ont aussi des problématiques pour garder les jeunes recrues aujourd'hui, dans des univers comme la tech, le marketing, le digital, même l'immobilier, importe. Il est vrai que je pense que ce serait quelque chose de plutôt vraiment, en tout cas, à pousser. Hein.
Entrepreneur, voilà. Il a résumé la problématique.
Et on a de plus en plus de PME, de TPE, qui sont intéressés par ce dispositif, et qui n'attendent pas l'exonération.
J'ai jamais entendu, Laurent, dans les émissions que nous avons faites ensemble, dans toutes les prises de parole, je n'ai jamais entendu un entrepreneur dire le contraire. Ce qui est très intéressant, c'est que certains qui auraient pu dire le contraire, ce sont souvent des très grandes entreprises auxquelles ils n'ont pas tout à fait bien compris. Mais quand vous prenez les PME, les ETI par exemple, ou même certaines grandes entreprises, il n'y a juste pas photo, hein, réception totale. D'ailleurs, je fais allusion à un de nos confrères qui était sur M6, et qui a tourné un reportage, et vous étiez chez Safran, me semble-t-il, et c'est votre DG qui avait fait le commentaire, et là, ça avait fait un tabac monstrueux.
Oui, alors Safran, c'est une entreprise de taille plus importante, en fait. Mais on a vraiment beaucoup aujourd'hui de dirigeants d'entreprises, de PME, en province, qui sont complètement alignés, en fait, avec ce dispositif. Et qui attendent qu'une chose, c'est que voilà, les pouvoirs publics puissent tout simplement pérenniser. On a fait une étude d'impact, c'est 11 milliards de recettes pour l'État.
Je pense qu'à un moment, de toute façon, il nous faudra une palette de solutions. Ouais, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de tout bord politique. Je pense qu'on aura besoin d'avoir une vision complète. Moi, par rapport à ça, Laurent, j'ai une autre question, mais qui n'a rien à voir. J'ai vu que vous étiez, en tout cas, vous intéressiez beaucoup au vieillissement. Voilà, c'est quelque chose, vous avez fait un manifeste. Alors, je cite, hein, pour la liberté de vieillir chez soi. Voilà. Et par rapport à ça, vous mettiez en avant, en tout cas, des solutions qui étaient assez peu connues du public. Et j'aurais bien voulu que vous en parliez très rapidement. Mais ça m'intéresse beaucoup. C'est des choses. Je fais beaucoup de choses sur le handicap et le vieillissement des personnes en situation de handicap. Et je trouvais que c'était plutôt intéressant de pouvoir regarder, en tout cas, de lire votre ouvrage.
Ben c'est merci. C'est un second projet là qu'on partage aussi en termes de conviction avec le député. Puisque...
Bon, on travaille de temps en temps quand même.
Voilà, c'est ce que...
On a eu l'occasion déjà d'échanger.
Ouais, c'est le livre, c'est le manifeste pour la liberté de vieillir chez soi aux éditions du Cherche Midi. En fait, pourquoi ce livre? Tout simplement pour casser un tabou. Et là encore, pour pouvoir mobiliser les entreprises sur ce sujet, parce que lorsqu'on parle de RSE, et notamment le S, social, sociétal, il faut des preuves. Il ne faut pas se payer que de mots, il faut des preuves. Et les preuves, ça passe par un engagement de l'entreprise pour pouvoir mettre en place, là encore, par des dispositifs de prêts subventionnés, hein, la pièce de plus pour les salariés aidants. 5,5 millions en France. On part du principe qu'il y en a au moins 30 à 40% qui ne se sont pas encore déclarés par peur d'être stigmatisés. Donc c'est un sujet pour l'entreprise parce que beaucoup d'absentéisme, c'est un sujet pour les salariés parce que c'est une deuxième journée qui s'engage.
Oui,
et c'est essentiellement des femmes qui sont concernées entre 45 et 55 ans. Donc là aussi, il y a un sujet quand même d'égalité dans l'entreprise. Et ce sujet... Et là encore, l'entreprise a la possibilité de pouvoir agir en tant que tiers payeur sur l'aménagement, l'accompagnement, tout simplement au rapprochement familial pour papa et maman, héberger papa ou maman, en fait, ça demande des aménagements. Et puis, c'est aussi la capacité de pouvoir travailler le CESU, le titre emploi, le CESU préfinancé par l'entreprise, et de relever les plafonds, notamment pour les salariés aidants, et le relever comme sur le plafond du plan d'épargne entreprise du PERCOL à 18% du PAS, hein, c'est 7 000 euros, parce que c'est indispensable pour pouvoir aider les salariés aidants, notamment sur les services à la personne, et de pouvoir réinjecter des flux dans l'économie. Vous voyez, le dispositif permet en fait de consommer et de consommer de façon plus forte pour rendre un secteur d'activité qui est aujourd'hui un peu atone, qui est notamment le secteur de la sidéroéconomie.
J'étais avec vous à l'Assemblée nationale quand vous avez, avec le député Labarone, effectivement, parlé de ce dispositif, justement. Alors vous, député, il y a un collectif plutôt sympathique qui vous entoure. Est-ce que vous pensez que ce type d'alternative, qui ne coûte pas finalement si cher que le salaire à l'État, tu as rappelé que ça rapportait plutôt de l'argent, mais aussi sur les vieillissements, sont des dispositifs qui pourraient voir le jour compte tenu du contexte qui se profile. Et qu'on sait qu'aujourd'hui, vous le savez, vous avez égrené tous les programmes des trois partis sortants, on en parlera quelques mots tout à l'heure, voilà, c'est un petit peu, c'est le mercato, hein. C'est bonjour 40, au revoir 60. Hein.
C'est une excellente idée qu'il faut, comme ça a été dit, soutenir et développer. Et il y en a plein d'idées comme ça. Oui, il y a énormément d'initiatives. C'est ce qui est quand même quelque part rassurant dans le secteur du logement. C'est qu'au-delà de la crise qu'on constate, que beaucoup de Français subissent, moi je trouve qu'il y a énormément de motivation, d'engagement, d'innovation, d'ingénierie, beaucoup de jeunesse, beaucoup de tout, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur la rénovation, enfin tous ces sujets du logement passionnent les Français. Et donc si nous, élus, on n'est pas là à l'écoute et qu'on n'essaie pas de débloquer les petits grains de sable qui, de temps en temps, peuvent limiter l'intérêt de certaines idées ou solutions qui sont apportées, en effet, on n'est pas à notre place. Voilà, donc avant de sortir peut-être des grandes initiatives, déjà essayons d'accélérer, parce que c'est rapide, ça ne coûte rien à l'État, ça peut être fait souvent par une simple circulaire, un décret,
des textes
très très vite, et qui permettrait d'apporter des réponses rapidement. Parce que,
on peut l'imaginer pour 2025, Laurent Permas, est-ce qu'on peut l'imaginer?
On a commencé à y travailler pour, donc les retours que nous avions étaient plutôt positifs. Bon, il va falloir qu'on l'intègre quand même dans le cadre du projet de loi de finances, s'assurer que ça tienne jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, je pense que nous serons les deux et d'autres engagés là-dessus et qu'on fera tout ce que l'on peut pour y arriver. Parce que ces chefs d'entreprise qui ont besoin de recruter, qui ont besoin de fidéliser, qui ont besoin de redonner du pouvoir d'achat à leurs salariés, on en voit tous les jours. Et aujourd'hui, on a, moi j'ai sur mon territoire, effectivement, un chef d'entreprise qui, de temps en temps, peuvent acheter des maisons ou des appartements qu'ils mettent à disposition de leurs salariés, mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc ça, c'est... Moi, je suis plein de restaurateurs, d'hôteliers, ils n'ont pas d'autre solution, sinon ils n'ont pas effectivement de saisonniers, ils ne peuvent pas ouvrir, ils ne peuvent rien faire. Mais derrière tout ça, il y a plein de PME, d'entreprises qui, au-delà des cotisations PEC et qui ne répondent pas forcément à leurs attentes sur le territoire, ont envie de ce genre de relations directes avec leurs salariés, parce qu'en plus, ça crée un lien direct avec le salarié. Et c'est l'entreprise qui se met au service d'un besoin essentiel pour le salarié. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc il faut absolument qu'on y
arrive. Il nous reste à peine quelques minutes pour terminer ce débat. Je voudrais qu'on aborde les programmes qui ont été présentés par les trois parties. Je vais faire rapide. Nous avons le Rassemblement national qui avait effectivement émis l'idée de revenir sur le moratoire sur le calendrier de la rénovation énergétique, de le suspendre, afin, je cite, de ne pas enlever des logements, déjà qu'on a des problèmes de location, notamment pour les étiquettes F et G au 1er janvier 2025. Avec, effectivement, tout le monde s'accorde effectivement sur les droits de succession. Pour la majorité, l'ex-majorité présidentielle, c'était une défiscalisation des droits de succession à hauteur de 250 000 euros pour les successions, pardon, je vais y arriver, et ainsi que un fonds. Alors, j'ai pas très bien compris la rénovation énergétique, redoter un fonds. Plus qu'il n'était à l'heure actuelle.
Pas suffisant.
En sachant que c'est ce même gouvernement qui avait envisagé l'idée de le réduire d'un milliard d'euros. Donc, mercato, voilà, les élections, etc., des promesses. Et enfin, la France insoumise. Alors là, avec le nouveau Front populaire, c'est extraordinaire. Là, il y a tout dedans.
Alors, on a un PTZ pour l'ensemble des jeunes.
Alors, on a PTZ pour les jeunes. Ah, oui, vous l'avez.
Bah, oui, on a PTZ pour les jeunes. Par contre, on a la remise en place de l'ISF. Voilà. Avec tout ce que ça peut.
Voilà. Le RN congédie l'IFI. Et là, on remet l'ISF. Et puis là, alors, c'est carrément. Et là, on voit. Vous êtes d'accord?
Et puis, c'est pas tout, parce qu'on vient aussi.
Ça stigmatise le petit propriétaire, je précise, parce que là, tout est fait pour le consommateur.
Alors, par rapport au petit propriétaire, on n'aime pas. Et moi, je suis toujours apolitique, mais je dis toujours une chose importante qui me tient à cœur. Quand quelque chose est bien fait, pourquoi l'enlever? Je veux dire, aujourd'hui, la loi anti-squat qui a été mise en place, etc., par le ministre, c'est quand même, ça a rassuré beaucoup de propriétaires, et notamment certains, à leur redonner envie de racheter un bien pour le mettre en location, chose qu'on avait un peu plus il y a une quinzaine d'années. Ça, c'est un sujet, pourquoi y toucher? À un moment, on parlait, il n'y a pas très longtemps, de pouvoir exonérer une partie des frais de notaire, en tout cas jusqu'à 250 000 euros également, pour les primo-accédants. Ça aussi, au fond, ça, lié avec tout ce qu'on a abordé pendant le débat, c'est des mesures qui, isolées, marcheront peut-être pas, mais pris tous en compte, pourront avoir et nous permettre de relancer l'économie autour du logement. Et ça, la vraie question que j'ai, elle est pour vous, elle est là-dessus, c'est de se dire, à un moment, est-ce qu'on peut pas trouver un consensus avec toutes ces personnes politiques pour avancer de manière intelligente et...
Le consensus, on l'a trouvé avec les professionnels.
De manière intelligente, c'est ça qui te fait sourire. Arrivé à un moment,
le consensus intelligent, il a été trouvé avec tous les acteurs du logement à travers le CNH. Tous les travaux qui ont été menés par le Conseil national de l'habitat. Oui. Donc moi, j'invite tous les partis politiques à lire les conclusions et les propositions du CNH et à les mettre en service. Non, mais au niveau gouvernemental et politique, avant, il faut crever l'abcès. Combien faut-il construire de logements aujourd'hui, à Bercy, une centaine de milliers.
Ouais.
Non, parce que vous ne pouvez pas mettre de politique et savoir ce que vous voulez mettre comme mesure si derrière, on n'est pas d'accord sur le constat et la situation. Et je peux vous le dire parce que j'ai passé quelques rendez-vous, que ce soit à Bercy,
d'ailleurs. Oui, mais en même temps, la plus grande catastrophe aujourd'hui.
Je me suis souvent fâché. Oui. Parce que quand on me dit que tout va bien, qu'il n'y a pas besoin de construire, qu'il n'y a pas besoin de nouveaux logements et que, allez-y, circulez, il n'y a rien à voir. Non, il va falloir un moment ou un autre aussi au plus haut niveau. qu'on accepte de voir que la situation elle est compliquée et de savoir quelle est la trajectoire, où est-ce qu'on veut aller, que ce soit sur la réno, comme ce soit sur la construction, comme ce soit sur les ventes.
Combien Lionel Causse ? Parce que vous avez fait allusion à Bercy, vous faites allusion à Agnès Quéré qui avait prétendu qu'il fallait à Bercy 275 000 logements et qu'on était bien. Sa fille hurlait tout le monde. Il en faut combien réellement ?
Tout le monde. Ben, on a fait les travaux au CNH, donc je vous les ai donnés entre 450 et 480 000. Il y en a qui disent un peu plus de 500 000, d'autres un petit peu moins, mais enfin, on est dans ces eaux-là. En tout cas, avec 250 000, on ne satisfait même pas les besoins de la société et dont on a parlé.
Il faut 480 000 logements par an.
Oui, pour attraper le retard et pour construire les nouveaux besoins.
Moi, je dis à minima 500 000.
Absolument.
Parce que 100 000, c'est du rattrapage. Okay. On a pour 10 ans.
Ça a dû vous faire bondir ce que vous aviez à Bercy.
Mais je suis parti très fâché. Ah oui. En disant, on acte notre désaccord dans un bureau à Bercy. Ils n'ont pas voulu que je parte en disant, on acte nos désaccords. J'ai dit, si, je suis désolé, j'acte mon désaccord avec vous sur le logement. Donc, ils étaient très surpris. Mais il faut qu'on crève l'abcès. Il faut qu'on sache... Quand vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas de problème de logement, qui vous disent qu'il n'y a pas de problème, qu'il faut laisser faire, que le marché va se réguler... etc., etc., qu'il faut tout libéraliser et que un logement, c'est comme un iPhone ou autre chose.
Et c'est sidérant.
Excusez-moi pour la marque, enfin, comme un téléphone portable. Oui. Mais on l'a entendu. On l'a entendu. Et qu'il faut laisser faire. Si les gens achètent, ils achètent. S'ils n'achètent pas, ils n'achètent pas. Mais non, il y a un sujet de fond.
Au prix de mettre à genoux toute une industrie, parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a 130 000 emplois qui vont être détruits à la Fédération française du bâtiment. C'est Olivier Saleron qui l'a publié. Qu'on a 120 promoteurs sur les 700 promoteurs qui comptent, qui ont déjà déposé leur bilan.
Mais quand il y a plus d'un an, moi je suis allé dans tout, à Bercy, à la cabinet ministériel, j'ai vu les ministres, que je leur disais, il va y avoir la suppression d'emplois. Qu'est-ce qu'on me répondait ? On me répondait, on va les créer sur la rénovation. C'est pas grave, il va y avoir un transfert de la construction sur la réno. Ben, on n'y est pas. Mais résultat aujourd'hui.
On en est même loin.
Mais le gouvernement en était persuadé. Ben, je le dis, c'est mon gouvernement, mais je l'ai porté. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on admette qu'on n'a pas pris les bonnes décisions et que maintenant, on regarde la réalité en face et qu'on essaie, en effet, c'est si on repart avec des directions centrales. Et avec des ministres qui nous disent que tout va bien, qu'il n'y a pas besoin de construire, qu'il n'y a pas besoin de répondre à ces difficultés territoriales, et qu'on va aller faire 75 000 logements intermédiaires, 70 000 logements étudiants sur 3 ou 4 ans, etc. Mais on est loin du compte.
Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'on a demandé aux bailleurs privés de se mettre complètement en conformité par rapport à la rénovation énergétique, alors que nos offices HLM public aujourd'hui peine depuis les années 80 à se moderniser, à être en conformité. À un moment, je sais pas, les conseilleurs sont pas les payeurs, mais c'est vraiment très étrange.
Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau. Je vais vous inviter à rester avec nous puisque je vais vous faire découvrir une innovation. Bien évidemment, on va retrouver tous ces débats sur les réseaux sociaux et bien sûr sur les plateformes d'écoute. On vous retrouve, Laurent Permas, le 26 et le 27 à Longchamp, à la rentrée des entreprises de France, avec le MEDEF, où vous avez votre émission justement sur la primo-accession, où vous avez un engagement très fort. On vous retrouve également, Lionel Causse, bien sûr, sur nos plateaux. On vous y invite bien volontiers. Je pense que la rentrée va s'annoncer sportive. On va vous parler avec Xavier et Alain Le Tailleur, qui est avec nous, qui a eu la patience de nous écouter avant ce lab, justement, puisque dans cette émission, notre ami Xavier a toujours voulu préserver et présenter une innovation et mettre à l'honneur aussi des entrepreneurs et des idées ingénieuses. C'est l'idée du Lab et c'est tout de suite après ça. Rebonjour Alain Le Tailleur.
Bonjour Sylvain.
Voilà, et vous vous occupez.
C'était passionnant.
C'est toujours passionnant. Voilà, grâce à Xavier, Laurent et Lionel, on a passé un très très bon moment. Mais on va parler de l'intelligence aussi et de l'ingéniosité. Vous occupez donc des innovations avec le groupe Sologer. On connaît le groupe Sologer, hein, c'est un des principaux portails d'annonces immobilières en France, mais pas que, puisque c'est un groupe international. Vous allez nous présenter Plateau. Voilà. Est-ce qu'on fait de la philosophie ? On parle de Socrate, de Platon ?
Ah, il manque une lettre, oui. Voilà, même si ça peut ressembler à un micro-banquet ici, on va pas parler de Platon. Non, de Plateau Immobilier, voilà. Ouais, Plateau by Sologer.
P-L-A-T-O.
Alors, voilà. Juste avant, Sylvain, moi, je voulais quand même présenter notre ami Alain, qui était un grand professionnel de l'immobilier. Il a commencé sa carrière, si je dis pas de bêtises, chez La Forêt. Il a évolué chez Meilleur Agent, avant d'aller ensuite du côté des mandataires pour le réseau Capi, avant de rejoindre Sologer. Et il a toujours une phrase qui met souvent en avant et que j'aime beaucoup, qui dit toujours « Il faut créer des agents immobiliers augmentés ». Et je trouve que cette phrase, elle est très vraie. À l'ère où on nous parle de ChatGPT, de tout ce qui évolue, et ça va très vite. Voilà, je voulais quand même qu'on puisse te présenter.
Merci Xavier, puis merci pour l'invitation.
J'aime beaucoup l'idée de l'agent immobilier augmenté. Vu mon volume, moi je suis un journaliste augmenté.
Super.
Voilà, grâce au Saint-Emilion et au canard...
D'accord, on peut citer des breuvages alors en plus.
Au canard landais. Oui, parlez-nous un petit peu de cette idée, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Hein.
Alors, tant mieux si on en parle beaucoup. Peut-être qu'on peut juste dire forcément l'innovation quand elle arrive dans nos marchés à nous, qui sont des marchés traditionnels au départ. C'est pour répondre à deux choses. D'abord, il faut s'adapter à ce que notre client, le particulier ou le porteur de projet, aurait besoin dans ses habitudes de consommation ou comment il vit l'immobilier. Et puis, les professionnels de l'immobilier, en quoi nous, on peut les aider à leur faire gagner du temps ou à leur éviter des tâches à moins forte valeur ajoutée, quoi. Donc, l'idée de Plateau, que parfois on résume... Alors, c'était pas l'idée des fondateurs. Ils aiment pas les fondateurs qu'on dise et qu'on résume ça à un Doctolib de l'immobilier. Mais je le fais quand même parce que l'image, elle est plus simple pour imaginer ce que c'est exactement. Et en fait, c'est né il y a 4 ans, en gros, d'abord d'une déception de ces créateurs-là. Et c'est pas pour faire du storytelling et une belle histoire. C'est vrai. Parfois, j'entends des storytelling, elles sont un peu arrangées. Là, c'est vrai. Et le constat, il est simple. Il était que, au départ, Eric Patou, Fabien Patou et puis Paul-Henri Marcadji, qui ont formé ça avant que nous on l'intègre, ont été confrontés à des demandes de location et ils ont vécu une mauvaise expérience, ce qui peut se comprendre, et les professionnels de l'immobilier comprendront, et puis ceux qui ont subi ça aussi, pas forcément une super expérience, avec le premier contact qu'ils ont d'ailleurs, avec un portail, avec un professionnel de l'immobilier, quand on veut se loger au départ et en attaquant par la location. C'est-à-dire que parfois, ça rappelait pas aussi vite que le client l'aurait souhaité. Peut-être pas de façon totalement ad hoc. Il suffit que le marché soit tendu et qu'il n'y ait pas de bien la location. Alors, le client locataire, alors là, il part. Il était déjà peu considéré ou pas assez considéré. Et alors, il part encore une fois comme la dernière roue du carrosse, quoi.
C'est clair.
Voilà. Donc, l'idée, c'était de se dire, comment on peut faciliter l'expérience pour le locataire qui un jour va découvrir sa première location et comment on peut simplifier la vie du professionnel de l'immobilier. Alors, donc, Plateau, qui est un CRM, entre guillemets, ou une plateforme complète, vous allez voir, sur lequel on ajoute des modules au fur et à mesure. Mais le premier module, ça a été de créer cet agenda qui a, quand on est sur une annonce sur un portail, pour le dire simplement, il y a un agenda qui vient s'ouvrir, avec des possibilités 24 sur 24, 7 jours sur 7, de prendre rendez-vous avec l'agent immobilier, selon des plages que lui a définies, l'agent immobilier, et pour préqualifier le locataire. C'est-à-dire qu'on va lui demander au fur et à mesure de son chemin d'envoyer des pièces, ce qui qualifie le crédit, entre guillemets, du sérieux, de l'engagement du locataire à peut-être vouloir louer quelque chose, ou plus tard de l'acheteur. Donc, il va pouvoir prendre rendez-vous, et puis jusqu'à son rendez-vous, on va lui demander des pièces, on va lui envoyer des SMS, et puis l'agent immobilier, à n'importe quel moment d'ailleurs, va pouvoir rentrer en contact avec lui de manière libre, quoi. Donc là, c'est avoir une réponse immédiate sur la nouvelle manière de consommer de l'immobilier. C'est-à-dire, je peux très bien être à 22h chez moi en train. Malheureusement, les gens font plusieurs choses en même temps. Ils regardent souvent une série et un smartphone et ils regardent peut-être comment louer leur appartement. Et ça peut leur prendre à 22h du soir. Ils peuvent bloquer donc une location avec l'agent immobilier. Comme ça, au moins, c'est fait. Pour le candidat locataire, il va y avoir une réponse qui est déjà par la prise en compte du blocage de l'agenda. Il y a déjà une connexion qui s'est faite avec l'agent immobilier. Puis l'agent immobilier, lui, il n'est pas obligé de rester ouvert jusqu'à 22h. Et au moins, il va avoir bloqué le premier contact pour celui qui a ce service-là. C'est-à-dire que ce soit un acheteur ou un locataire, on voit bien que c'est bloqué. Et ensuite, on verra bien ce qui se passe. Et nous, on va le qualifier au fur et à mesure.
Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable ?
Bien sûr, avec plaisir.
Avec 49% d'offres de location en moins,
oui.
Est-ce que ça fonctionne ?
Alors, c'est
parce
pas
que, pas,
alors
parce d'abord, que vous avez raison. Hein,
oui.
Ils rappellent jamais hein, pour les locations.
Alors pas tous. Il y a des agents immobiliers qui font leur métier.
Non, mais on a fait des sondages. On a fait des sondages. Il y en a 1 sur 10 qui rappelle. Voilà. On a des personnes qui sont totalement désespérées, mais ça on le sait déjà. Regardez dans les agences immobilières, Xavier le sait très bien, on a des parents de jeunes étudiants, etc. Quand l'annonce paraît,
oui,
les gens se jettent dessus sur l'annonce. On arrive à bloquer les créneaux quand même sur l'agenda.
Ah oui, alors l'agent immobilier encore il fait comme il veut, c'est-à-dire que soit il décide qu'un certain nombre de biens, bah il met pas l'agenda, ouais, mais il se prive d'avoir un bon retour d'expérience et de bloquer le client si c'était le bon, parce d'accord, que tu ne sais pas quand il y a pléthore de clients qui appellent, parce que là je me mets dans une côté et entrepreneurial quand même, il y a du tri à faire.
Je
ne
veux pas avoir l'air d'insister, mais ce malgré la pression qu'on a sur le marché locatif.
Oui, parce que d'abord, quand on fait une innovation, quand l'innovation est sortie, tu vois, c'est né il y a 4 ans, et quand l'innovation est sortie, bah, le marché n'était pas aussi tendu que ça, d'abord. Et ensuite, quand on parle de porteur de projet, là je suis en train de parler du locataire, mais c'est la même chose pour l'acquéreur. L'acquéreur aujourd'hui, et le système marche évidemment pour un acquéreur aussi. Bien c'est-à-dire sûr que moi j'ai envie de regarder les annonces à 23h si j'ai envie ou à 6h du matin, et bien je peux bloquer mon créneau. Ça me rassure en tant que porteur de projet parce que j'ai bloqué un rendez-vous avec l'agent peut-être le plus rapidement possible. Et puis l'agent immobilier, ben, il n'a pas obligé de mettre une force en présence 24/24 pour bloquer l'acquéreur. Et ensuite, la qualification va se faire au fur et à mesure. Et ensuite, on va revenir à une relation humaine nécessaire, vitale, quoi. Donc, voilà, donc c'est locataire d'un côté. Et puis acquéreur de l'autre. Et puis ça rassure aussi le bailleur, puisque comme au fur et à mesure on va préqualifier le candidat locataire,
c'est intéressant comme argument. La transmission des données, des documents se fait de façon protégée. C'est quoi? C'est
bien
la
sûr
blockchain?
Ah oui, non, bien sûr.
D'accord,
oui,
okay,
bien sûr.
Okay.
Bien sûr. Okay. Et on se sert de Plateau, parce que Plateau.
Donc ça sécurise l'envoi des données, bien évidemment.
Bah, oui, voilà, bien sûr. Et puis c'est surtout les obtenir, et ça montre deux choses. D'abord, il y a une sécurisation de données, puis il y a aussi comment je peux hiérarchiser. Quand j'ai 500 personnes, bon, 500, disons 60 qui appellent d'un coup, comment je choisis? Donc, c'est important d'avoir des pièces en bonne et due forme, que chacun ne perde pas de temps, c'est-à-dire le locataire, l'agent immobilier et le bailleur. Tu vois, donc, voilà.
Je pense que, Sylvain, on oublie souvent que le locataire, il voit une annonce, quand il téléphone à une agence, le temps, tu le disais tout à l'heure, que l'agence le rappelle, quoi qu'il en soit, quand elle va l'avoir au téléphone, elle va lui dire, on va vous envoyer la liste des pièces avant même la visite aujourd'hui, surtout quand tu es en zone tendue. L'avantage d'une solution de ce type, ça te permet déjà de déposer l'ensemble de tes pièces, directement la collaboratrice le matin dans la réduction de tes tâches chronophages, elle voit arriver l'ensemble des personnes qui ont un dossier complété, elle peut appuyer sur un bouton s'il manque des éléments cruciaux pour les renvoyer directement au prospect qui peut les renvoyer, et à partir de là, ça permet d'avoir un rendez-vous en ligne, ça permet de surtout de changer la méthode de fonctionnement de l'agent immobilier aujourd'hui. On est dans une situation où le client ne veut plus attendre. Et vous-même, vous êtes client, je pense qu'on l'a tous vu, on n'a plus de patience, on a beaucoup moins de patience qu'avant, on veut que ça soit vite, que ça aille vite et qu'on soit pris en main rapidement, et nos bailleurs aussi. Donc je pense que plus que jamais aujourd'hui, déposer en ligne des créneaux comme on le fait maintenant chez le coiffeur, chez le docteur ou autre, dans l'immobilier, ça doit être juste naturel. C'est juste une question de changement.
Pour la location, ça marche.
Pour la location, mais pas que pour la location aussi. Pour visiter un bien, voilà, lors de là. Je pense qu'il y a des vraies choses à changer et à modifier.
Moi, ce que je vois de façon quantitative, mais bravo, super. Moi, ce que je vois de façon quantitative, c'est qu'à peine publié, déjà loué. Et que les statistiques démontrent que quand les personnes appellent pour la location, on leur répond 7 fois sur 10, c'est déjà loué, c'est déjà loué, c'est déjà loué.
Mais parce que aussi, beaucoup de gens utilisent du scoring, parce qu'on parle de Plateau aujourd'hui, ça fait des années.
Parce que Xavier, on a une pression d'offres à la location, tu le sais,
oui,
qui est importante si on avait un flux. Est-ce que, alors c'est le sens de ma question, c'est pas une question piège, mais c'est comment tu arrives à conjuguer les deux finalement. On le sait aujourd'hui sur les portails, d'ailleurs vous avez publié chez Se Loger, vous publiez très souvent des rapports là-dessus, comment on fait pour justement ajuster dans l'expérience sur des personnes qui de toute façon ne trouveront pas parce qu'il n'y a pas assez de biens loués.
Alors d'abord, c'est ça que je voudrais comprendre. Une fois, il y a un choix de la part de l'agent immobilier augmenté 2.0 qui ne doit pas prendre un appel, puis derrière demander des pièces. Bon, ça c'est fini quoi. Il faut qu'on passe à autre chose. Dans l'expérience client, à un moment donné, tu dois appuyer sur une touche. Quand tu commandes un taxi, c'est très simple. Alors quand tu achètes un bien immobilier avec un montant de 300 000 euros en moyenne en France,
c'est presque plus simple.
Voilà, il faut un peu simplifier l'expérience client parce que un peu plus de transparence surtout, et c'est le sens de l'histoire. Il faut que ça soit un peu plus simple, un peu plus ergonomique, etc. Et ensuite, le marché là, il est tendu, etc. Mais s'il n'y a pas cette application-là, il n'y a pas de réponse. Là, il y a une réponse. C'est-à-dire, et puis, je ne suis pas obligé de publier toutes mes annonces. Le chef d'entreprise, il fait comme il veut, quoi. Et puis, ça dépend des localités, ça dépend des saisons. Et puis, il y a le locataire d'un côté. Et ça, ce n'est pas nous qui allons faire en sorte que il y ait 500 000 logements de construits sur les 10 ans, en rattrapant le retard et en, Et même s'il y a du financement immobilier intelligent, oui, ok, il y a un marché tendu à un moment donné. Ça, nous, on n'y peut rien. L'application, l'innovation, elle ne règle pas ça.
C'est une bonne réponse.
Bon, tant mieux.
J'aime beaucoup la réponse parce que, en fait, ce que je vois, c'est normal. Je suis journaliste, donc je pose ces questions-là. Dans ce que tu dis, il y a une chose qui pour moi est une bonne réponse, c'est que les gens ne répondaient pas, ne pouvaient pas répondre pour les raisons que tu as expliquées, Xavier, et que là, enfin, on a un outil dans lequel, effectivement, vous pouvez déposer vos pièces. C'est pas sûr que vous l'aurez l'appart, on est d'accord. Mais déjà, on sait qu'il y a un outil qui permet d'avoir cette relation de réponse à un marché du style être tendu. On est d'accord là-dessus.
C'est ça.
Et je pense que rien qu'à ce niveau-là, c'est déjà une formidable avancée. Je m'étonne que ce soit pas déjà le cas. Ça n'était pas le cas.
Ben non, ça n'existait pas. Mais toutes les choses qui sont un peu innovantes de temps en temps, on en découvre tous les jours. On dit ça paraît super. Évident
alors,
que.
Alors, je nuance un peu. Il y avait d'autres solutions qui existaient, mais Plateau était une très bonne solution.
D'accord. Une solution choisie par WeInvest. Bien entendu.
Bah, c'est le client qui en parle le mieux. Tu as bien vu quand tu as posé des questions, c'est le client qui défendait le service.
Encore,
donc c'est magnifique.
Encore, on n'est pas d'accord sur les modalités financières.
Si l'ARCOM me tombe dessus, je vais prendre très cher parce que là, ça s'appelle de la promotion.
Je pense qu'il faut aussi inscrire cette solution dans la durée.
Bien sûr.
Parce qu'aujourd'hui, on est dans la situation. Mais vous l'avez commencé il y a 4 ans et elle est là pour durer encore.
C'était l'idée de la question.
Et puis vous savez, c'est l'évolution à chaque fois. C'est-à-dire que, tiens, c'était colocataire. Et avec les agents immobiliers, c'est à peu près passé pour les locataires. Quand on a dit c'est pour les acquéreurs, c'est la pédagogie. C'est-à-dire qu'au début, on a eu une levée de bouclier des professionnels de l'immobilier qui disaient, ah non, l'acquéreur, là, je mets pas d'agenda qui prend des ronds. Je veux l'avoir en ligne tout de suite. Je veux le qualifier. Donc ça, c'est encore des freins. Tu vois, donc ça dépend du marché. S'il y avait beaucoup d'acquéreurs, moins d'acquéreurs, ben, l'innovation, elle s'adapte. Et puis, on s'en sert maintenant de Plateau à l'intérieur de ce grand groupe comme une start-up à l'intérieur de la boîte. C'est-à-dire que pour faire preuve d'agilité et rapidement dire, tiens, j'ai entendu des choses intéressantes ce matin-là. Si je les remonte au groupe et qu'il n'y a pas Plateau qui est notre petit laboratoire, ça va être long, le process de décision. Hein. Tandis que Plateau nous permet d'être un peu agile et de tester des choses.
Est-ce que les particuliers peuvent déposer leur annonce de location sur ce loger?
Oui.
Et ils ont la possibilité d'utiliser cet outil?
Non.
Non, d'accord. C'est uniquement pour les professionnels.
C'est réservé aux professionnels.
Merci beaucoup. Je vous propose un jeu pour terminer, Sabouba, pour tourner sur une bonne note. Voilà. Vous êtes d'accord, Monsieur Belbeau?
Je vous écoute, Monsieur Lévy.
Alors, j'aime bien quand il m'écoute comme ça. Alors, je vais vous proposer à chacun de me donner un adjectif, un mot, qui illustre très spontanément les propos que nous venons d'échanger. Je vais commencer par vous, Lionel. Le mot qui vous vient à l'esprit?
Innovation.
Innovation. Intéressant. Merci, Lionel. Laurent Permas?
Engagement.
Engagement. Ça vous va bien, ça, engagement? Voilà. Engagement pour Laurent Permas. Alain Le Tailleur?
Je voulais dire inspirant, mais en fait, non, c'est motivant.
Voilà,
ce que
motivant.
J'entends aujourd'hui, moi.
Motivant. Merci, Alain. Xavier Belleau?
Endurance.
Endurance. Alors, pour aller dans le sens de l'innovation, il faut faire preuve d'engagement. Pour cela, il faut avoir un projet motivant et toujours faire preuve d'endurance.
Ah bien,
Bon tour de table. c'est un jeu où tu gagnes toujours. Hein. La prochaine fois, on changera, on demandera à un invité, on lui donnera, il prendra les quatre mots, non, il fera la
c'est
phrase.
C'est prévu.
Surtout qu'on l'a mis dans l'autre sens.
Alors, c'est un jeu sur lequel je gagne toujours. Pourquoi? Parce que le patron du plateau, je suis désolé. Voilà. Merci Xavier, ça fait plaisir d'avoir des amis sur le plateau. Voilà. En tout cas, voilà, bonne humeur toujours entre nous. C'est un vrai plaisir. J'ai passé un super bon moment avec vous. Ça fait 1h06 qu'on est sur le plateau. Comme quoi, finalement, les idées fusent. Et vous savez, ce que je ressens là, c'est une formidable énergie, une formidable émulation. Dans notre pays, on a beaucoup, beaucoup de talents. Il serait temps peut-être qu'à la faveur d'un bouleversement institutionnel, on nous foute un peu la paix. Et comme dirait Georges Pompidou, lorsque Jacques Chirac, tout jeune collaborateur, en 1966, lui présente un décret à signer, il disait « il faut arrêter d'emmerder les Français, laissez-les vivre et vous verrez, tout ira mieux ». Réponse de Georges, ça n'a pas empêché Jacques Chirac de faire la carrière qu'on lui connaît. Merci Laurent Permas, président de l'Asopiab. On vous retrouve bien évidemment pour Entreprises et Habitat à suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt sur les crédits subventionnés et toujours une science dithyrambique et académique. Merci Laurent. Lionel Kos, on est super heureux. Voilà, super heureux pour vous, soyez réélu. C'est un compas qui a été digne, une noble cause. Ce qui prouve une chose, c'est que les 62% de vos administrés dans la deuxième circonscription des Landes ont plébiscité votre engagement, et c'est ça que je vois le plus.
Merci beaucoup. Et vous savez, j'ai envie de leur dire, tous ceux qui viennent me voir tous les jours pour un logement, traversez la rue et vous en trouverez un.
Et là, on verra.
Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'adore. Toujours critique.
Je le savais.
Mais c'est ça que j'ai jamais compris chez vous. C'est que vous êtes hyper critique en plus. Et vous êtes quand même. Voilà. Donc, vous savez ce que vous êtes en radio pour vous, pour nous? Vous êtes un super client. Voilà. Merci, Lionel Cause. Un grand merci, Alain Le Tailleur. Je vous ai un peu titillé, mais l'idée, c'était de bien comprendre. Et franchement, vous maîtrisez parfaitement le sujet. Ça fait toujours plaisir d'avoir un pro sur le plateau. Merci à vous. Merci. Voilà, se loger, c'est plateau. Voilà. Et on peut avoir accès. Alors, je rappelle, hein, on est professionnel, agent immobilier, administrateur de biens. Toute personne professionnelle y a accès, mais pas les particuliers.
Et non.
Sur plateau. Très bonne initiative. Ça coûte cher ?
Non.
C'est gratuit.
Toujours trop cher.
Non.
Ah, c'est pas gratuit, mais ça coûte pas cher.
Non. Il y a un très bon retour sur investissement.
Il est vraiment très bon. Faut pas... Voilà, je ne peux rien ajouter. Merci. On retrouve facilement les informations. On vous contacte directement. Comment on fait?
On peut même taper plateau sur Google et on peut taper se loger et on arrive sur la solution.
Et entre autres, voilà, si on veut aussi avoir des infos complémentaires, même si vous êtes un réseau concurrent, vous appelez Xavier Bellevaux et il vous donnera tous les tuyaux. Merci Xavier Bellevaux.
Merci Sylvain. Voilà. Merci à tous d'être venus.
Voilà, une belle émission que vous avez encore brillamment co-animée. Merci encore pour Débat Immo. C'était le deuxième opus. On se retrouve bientôt, bien sûr, pour un nouveau numéro de Débat Immo. On retrouve aussi WeInvest dans ses multiples pérégrinations. On sait que le réseau est en train de s'étendre sur un terrain de jeu national. C'est WeInvest, la plus belle réussite de l'année pour un réseau immobilier. Et ça, c'est dû à l'ingéniosité et à la vision qui est portée par vous, Xavier Bellevaux.
Merci.
Puisque vous avez inventé finalement un nouveau mode de distribution dans lequel il ne s'est pas emmerdé. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris un modèle hybride et il a donné une réponse globale à l'ensemble du marché. Je ne peux pas faire plus clair.
Oui, mais je me suis adapté à la situation qui l'exigeait.
Voilà. Merci à toutes et à tous. On va vous souhaiter un très très bel été, de belles vacances à toutes et à tous. Débat Immo, c'est récupéré sur toutes les plateformes qui vont bien. Vous nous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux. Vous commentez, vous likez et toujours avec beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous et reposez-vous.
Débat Immo, une émission proposée par WeInvest, à réécouter et télécharger sur Radio Immo, Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.